Bonjour à tous. J'ai longtemps hésité pour ce message. Et finalement, on va prendre ce message qui a pour titre « Donnez-leur vous-même à manger ». Comme ça, le titre est déjà donné. Pour commencer cette méditation, j'aimerais qu'on ait une courte lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. On a ici affaire à un contexte où les disciples ont été envoyés en mission par Jésus à travers les villes et les villages de Judée, d'Israël. Et au verset 12 et au verset 13, on lit ceci : ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc on a ici, quelque part, les disciples qui sont revêtus d'une autorité de Jésus et par laquelle ils sont amenés à prêcher avec assurance, probablement, ils prêchaient la repentance, et ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile les malades et ils étaient guéris. Donc quelque part, ils étaient vraiment revêtus d'une autorité qui venait d'en haut. Et ce qu'ils faisaient était béni par le Seigneur. Et finalement, la mission qu'ils remplissaient, ils la remplissaient bien. Et pourtant, on voit ici que, on va voir une histoire où ils avaient encore des choses à apprendre, les disciples. Bien sûr, ils ne sont qu'au début de leur formation. Et j'aime bien lire aussi les évangiles sous cet angle. L'angle de la formation des disciples. Et c'est vrai que quand on lit les évangiles sous cet angle, on reçoit aussi beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Et ici, au verset 30, on a justement un problème qui va se montrer, un bon problème. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. On imagine les disciples, d'ailleurs un autre évangile nous le rapporte, ils sont pleins d'enthousiasme. Et ils arrivent, oui, les démons nous sont soumis, on a guéri les malades, et ils sont là en train de se réjouir. Et Jésus leur dit, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Autrement dit, c'est pas parce que j'ai remporté une victoire, une belle victoire, que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Nous sommes tous sous la grâce de Dieu, et là, s'il y a une chose dans laquelle il faut nous réjouir, c'est que notre nom soit inscrit dans le ciel. Et Jésus a cette compassion, voyez le maître, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les !» afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Il leur répondit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. tous ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Bien sûr, sans compter les femmes et les enfants. Ça faisait beaucoup de monde. Elle est belle, cette histoire, quand même. Quand on réfléchit à tout ce qui s'est passé, un miracle inexplicable, d'ailleurs. Il y en a plein qui essaient d'expliquer les miracles. Je pense qu'il y en a un qui ne peut vraiment pas expliquer, c'est bien celui-là. La matière qui se multiplie. C'est pas possible. Dieu est Seigneur, il fait absolument ce qu'il veut. Et seulement, on voit que les disciples, quelque part, ne vont pas bien comprendre la portée de ce miracle. Et ils ne vont pas bien comprendre pourquoi, quelque part, ce miracle a lieu. On va en parler tout à l'heure, mais quand Jésus accomplit un miracle, ce n'est pas simplement pour faire un prodige. Miracle, ça veut aussi dire signe. Donc quand Dieu accomplit un signe, ou révèle un signe, c'est parce qu'il veut enseigner quelque chose. C'est parce que, oui, on voit sa puissance à l'œuvre, et béni soit Dieu pour sa puissance qui se met à l'œuvre, mais il veut aussi nous enseigner des choses. Et le texte clé de ce miracle, c'est le verset 34, on va le relire. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. On a là une foule qui est complètement enténébrée et qui a besoin d'un sauveur. Ça me fait penser à ce verset dans Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et ce verset nous parle justement du besoin d'un sauveur. Nous parle du fait que quand on n'a pas Jésus dans notre vie, on est comme des brebis errantes. Et quand Jésus regardait cette foule, c'est exactement ce qu'il voyait. Des personnes qui étaient complètement enténébrées, qui ne savaient pas leur droite de leur gauche, qui avaient besoin du chemin. Il était le chemin, mais elles avaient besoin. Et quand Jésus, on lit ça, il eut compassion de la foule. Moi, j'en arrive à cette question. Est-ce que on pourrait avoir les sentiments qui étaient en Jésus? Comment est-ce qu'on perçoit ceux qui sont dans notre entourage? De nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail? Des personnes même peut-être pénibles autour de nous, comment on les perçoit? Est-ce que on peut être animé de cette compassion-là? Alors si on essaye de la voir par nous-mêmes, ce n'est pas la peine. Hein, parce que cette compassion-là, on ne peut que la recevoir d'en haut. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette compassion. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner l'amour. Et cet amour-là qui est développé, ce n'est pas notre amour, ce sera celui de Jésus qui vit à travers moi. Christ en moi. Et c'est l'élément déclencheur du miracle. C'est souvent le cas d'ailleurs. Si on regarde les évangiles, qu'on les parcourt, combien de fois on lira ému de compassion et Jésus a son bras qui bouge. Même dans l'Ancien Testament, si vous regardez l'affaire de Joseph par exemple, qu'est-ce qui va déclencher son élévation alors qu'il est dans la prison ? C'est sa compassion. S'il n'avait pas remarqué le panetier et les chansons qui étaient plus tristes que tout ce qui était triste dans la prison, il serait passé à côté. Béni soit Dieu, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Et il a pu développer ces qualités qui ne sont pas humaines. C'est des qualités qui viennent de Dieu. Et Joseph a développé là une compassion qui venait de Dieu. Et il a pu remarquer parmi tous les prisonniers qui étaient là, qu'il y en avait deux qui étaient particulièrement tracassés, s'il ne les avait pas vus. C'est la compassion qui a permis à Dieu d'intervenir. Et c'est toujours la compassion qui permettra à Dieu d'agir dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à avoir cette prière. Parce que, je le redis, on ne pourra jamais l'avoir par nous-mêmes, cette compassion. On a ce regard égoïste. On pense à nous. Seigneur, aide-moi à être touché par ton esprit, par rapport à telle ou telle situation, par rapport à tel ou tel besoin. Seigneur, développe en moi cette compassion que tu avais. Alors, nos disciples, là, ils reviennent de mission, et ils sont tout contents. Et peut-être, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur, mais toujours est-il que, quand on regarde le verset 36, les sentiments qu'il peut y avoir dans le cœur du disciple, je ne veux pas les juger, hein, mais ils ont peut-être le sens pratique des choses, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on voit, on est en droit de se poser la question quand on lit les versets 35 et 36, qui sont les disciples et qui est le maître? Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans les évangiles où les disciples disent à Jésus ce qu'il doit faire. Et là, on a quand même au verset 36, c'est quand même remarquable, on a des disciples qui commandent. Renvoie-les! C'est même pas suggéré, c'est imposé. C'est cash, comme on dit. Et là, il y a un problème quand même. Quand on en arrive à commander à Dieu de faire ceci, cela, mais est-ce que peut-être parfois on ne le fait pas, d'ailleurs? Quand on prie, on a des prières. Des fois, je ne sais pas si c'est des prières ou des commandements qu'on impose à Dieu. On serait en droit de se poser la question. Des disciples qui commandent. Mais les disciples avaient peut-être dans leur cœur un problème qu'il fallait absolument régler et que Jésus va permettre, justement, pour remettre les choses à leur place. Ils ont une attitude qui viserait à faire d'eux les maîtres. Jésus va leur répondre comme à des maîtres. Eh bien, donnez-leur vous-même à manger. C'est là ce que doit faire le maître. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples de faire. Si vous êtes les maîtres, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est là qu'on voit qui sont vraiment les disciples, parce que le regard terre à terre redescend vite. Hein. Eh, mais on n'a pas de sous. Ah, d'accord, mais on va essayer d'y réfléchir. Alors, comment on pourrait faire? Qu'est-ce que vous proposez? Les disciples étaient prêts peut-être à aider, quoique quand ils demandent de renvoyer la foule, est-ce qu'ils avaient de la compassion dans leur cœur? J'en sais rien. Il était tard, Jésus avait enseigné longtemps, c'était peut-être que le côté pratique, mais peut-être qu'aussi dans le cœur des disciples, ils avaient peut-être un peu d'orgueil, j'en sais rien. C'est pas écrit. Hein. On va pas soupçonner le mal, mais on ne sait pas. Et Jésus va, lui, de son côté, pouvoir montrer à ses disciples que s'il y a un maître à bord, c'est lui. Et il va agir. Et il va permettre cette multiplication des pains. Alors va avoir lieu le miracle. Verset 52, on voit que ce miracle-là, malheureusement, les disciples n'avaient pas compris. Jésus va saisir l'occasion pour enseigner ses disciples, eux qui l'avaient envoyé en mission. Rappelez-vous que c'est le contexte de ce miracle. Ils reviennent de mission. Et ici, au verset 52, Marc écrit, « Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. » Comment Marc a su ça? C'était le disciple de Pierre. Et on y voit ici, en filigrane un peu, l'aveu de Pierre qui dit, « Mais quand c'est arrivé, on n'a pas compris pourquoi Jésus a fait ça. On n'a pas compris ce qu'il voulait nous dire. » Et malheureusement, c'est dommage, mais combien de fois Jésus peut-être agit dans nos vies et on ne comprend pas. On vit des fois des situations, Dieu veut nous parler, et des fois même il crie parce qu'il permet des fois la souffrance ou des choses, et on ne comprend pas. Que le Seigneur nous aide. Les disciples, pourtant, quand l'apôtre Pierre peut-être dit ça à Marc, je ne sais pas jusqu'à quel moment ils n'avaient pas compris, à quel moment ils ont commencé à comprendre, je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Mais toujours est-il que le lendemain, ça c'est Jean qui nous le rapporte dans son évangile, que Jésus donne des explications quand même. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, ne cherchez pas. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc vous voyez, l'explication de Jésus, elle ne sort pas du contexte de la mission des disciples. Verset 58 du sixième chapitre de Jean, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est question de la croix. Pourquoi j'en parle ? Parce que Jésus a rompu le pain. Et le pain rompu, c'est l'image de ce qui va lui arriver à la fin de son ministère. Jésus va être brisé. Il plut à Dieu de le briser par la souffrance, parce qu'il voulait nous sauver. Non pas que Dieu voulait détruire et briser, faire mal, non, mais c'est parce qu'il fallait qu'il souffre pour que nous puissions être restaurés, que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour toi sur la croix du calvaire. Il a été ce pain rompu. Il a donné sa vie, son sang a coulé. Il a payé cher. Il a payé très cher notre péché. Lui qui était pur, sans tache, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu marcher parmi nous. Il est venu être méprisé. Il est venu pour être abandonné de ceux qui étaient autour de lui. Et tout ça parce qu'il m'aimait, parce qu'il t'aimait. C'est là le sacrifice de Jésus sur la croix, le pain rompu. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe ? On a tous lu l'histoire. Le pain rompu est confié aux disciples. Qui fait le miracle ? C'est une collaboration. C'est une collaboration entre Jésus, qui ordonne le miracle, mais ce sont quand même les disciples qui vont distribuer. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'il nous faut retenir. Les disciples n'avaient pas compris. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez que ce n'est pas la première fois que les disciples entendent cet ordre ? Eh bien, regardez, un chapitre avant. Vous avez l'histoire de Jaïrus. Et Jaïrus, vous savez ce que ça veut dire, Jaïrus ? Ça veut dire celui qui éclaire. Et Jaïrus, il va avoir sa fille qui est malade, que Jésus va ressusciter. Et au moment où sa fille va être ressuscitée, il donne deux ordres en particulier à Jaïrus, peut-être pour éviter qu'il soit exclu de la synagogue dont il était le chef. Et en même temps, il dit cet ordre de donner à manger à la jeune fille, ce mort qui ressuscite. Cette personne qui passe des ténèbres à la lumière, Jésus donne l'ordre de donner à manger. Quelle puissance était cette parole ? Je ne sais pas comment Jaïrus a reçu cette parole, mais lui qui était chef de synagogue, qui n'a pas hésité à s'humilier publiquement devant tout le monde pour demander à Jésus le miracle. Jésus, il lui dit de ne pas le faire savoir. Mais peut-être bien parce qu'il ne voulait pas non plus que Jaïrus soit exclu de la synagogue. Et là où il était, il pouvait donner à manger à tous ceux avec qui il était en contact. Non seulement cet ordre s'adressait en vue de sa fille, mais est-ce que ce n'était pas non plus un ordre de mission envers tous ceux qui étaient autour de lui, alors que lui était pasteur ? Toi, en tant que pasteur, il te faut donner à manger. Et il nous faut donner à manger. C'est notre rôle. Mais nous sommes tous pasteurs, quelque part. Nous sommes tous disciples de Christ, où nous devons tous donner à manger. Cet ordre-là, les disciples, ça fait la deuxième fois qu'ils l'entendent, et il faut qu'ils comprennent quelque chose. Et ils n'ont pas compris de suite. Qu'est-ce que voulait dire ce miracle ? Alors j'aimerais qu'on lise ensemble, là cette fois-ci on va le lire tous ensemble, dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Vous allez voir que le pain rompu, qu'était Jésus, le pain de vie, eh bien, si nous sommes des disciples de Christ, nous sommes appelés à marcher dans les pas de notre Maître. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus a commencé le miracle. À nous de le poursuivre. Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous devons poursuivre le miracle en donnant notre vie, s'il le faut, pour les frères. C'est la poursuite du miracle. Est-ce que je suis ce pain rompu devant Dieu? Est-ce que mon désir est de faire la volonté de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que ce qui m'intéresse, c'est bon, je suis passé par la repentance une fois, maintenant j'ai ma petite vie tranquille. Et finalement, l'Église, je ne m'en soucie pas plus que ça. Je suis passé par la croix, j'ai pris mon baptême, tout va bien. Je pense qu'il y a plus que ça. Et le Seigneur, il nous appelle à marcher dans ses pas. Est-ce que tu aimes Dieu vraiment? Est-ce que tu serais prêt à t'engager et même à souffrir pour lui s'il était là et qu'il te le demandait personnellement? Est-ce que tu veux souffrir pour mon nom? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Qu'est-ce que tu es capable? De quoi serais-tu capable de te séparer pour me suivre? Parce que souvent, il y a le problème des idoles. Il y a le problème de tas de choses qui nous empêchent, finalement, de pouvoir nous consacrer à son service. Je ne suis pas en train de dire ce soir qu'il faut que tous vous quittiez votre travail, qu'il faut tous vous engager dans le ministère. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans nos vies à tous, nous sommes appelés à donner à manger, tout simplement. En tant que chrétien racheté, né de nouveau, disciple de Christ, si oui, j'aime Dieu, alors, par mon témoignage, par mon engagement pour le Seigneur, eh bien, je dois pouvoir être en mesure de donner à manger. Au même titre que Jésus a donné sa vie pour moi, est-ce que si le besoin s'en faisait sentir, allez, quelqu'un qui est dans mon entourage, qui a besoin que je l'aide financièrement, moi je ne peux pas finir mon mois. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je serais prêt à prendre de mon budget pour aider la personne? C'est ça, quelque part, être ce pain rompu. C'est être prêt à aider ceux qui en ont besoin. J'ai pas le temps de m'occuper d'un tel ou d'une telle, mais à un moment donné, il y a un besoin qui est là. Est-ce que je suis prêt à prendre le temps pour répondre aux besoins que le Seigneur me soumet? La consécration pour le service du Seigneur. Ça, on peut tous servir. On peut tous servir. Que ce soit dans ces murs ou que ce soit dans notre vie de tous les jours, on peut tous servir le Maître. Comment est-ce que je réagis par rapport aux besoins? Le deuxième aspect de ce miracle que je relève, c'est que les disciples sont des distributeurs, des transmetteurs, plutôt, je dirais, de la bonne nouvelle. On connaît tous cet ordre de mission que Jésus a laissé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est à nous d'enseigner. Et il a promis d'être avec nous. Le Seigneur ne m'appelle pas forcément à aller au Togo ou au Niger comme le couple Bordeneuve, mais dans mon entourage, déjà. Est-ce que ceux qui me regardent voient quelqu'un qui reflète Christ? On l'a chanté. Ou est-ce qu'ils voient quelqu'un qui est comme les autres? Est-ce qu'ils voient quelqu'un qui a quelque chose en plus? Ou est-ce qu'ils voient quelqu'un qui est vraiment identique, avec les mêmes problèmes? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui a la paix? Ou est-ce qu'il voit quelqu'un qui est tout le temps dans le doute? Pour pouvoir partager une bonne nouvelle, vous savez, quand on a une bonne nouvelle, quand on reçoit vraiment une bonne nouvelle, les impôts, erreur de la banque en votre faveur, recevez 20 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la banane et puis vous le partagez. Mais c'est ça, partager la bonne nouvelle. Quand on a quelque chose qui nous fait du bien, on est vraiment heureux, mais c'est comme ça, on ne peut pas s'empêcher de le partager. Et si je ne le partage pas, si je n'ai pas à cœur de partager, est-ce que finalement ça a été pour moi une bonne nouvelle ou est-ce que ça a été quelque chose, une étape dans ma vie? Mais c'est rien en fait. Je crois qu'on pourrait se poser la question. Parce que si, oui, c'est une bonne nouvelle, que nous l'avons reçue comme une bonne nouvelle, et que suite à cette bonne nouvelle, notre vie vraiment a changé. Normalement, si on est bien constitué, quand on reçoit une bonne nouvelle, on a à cœur de le partager, c'est normal. Sans aller très loin, est-ce que déjà mon entourage proche voit en moi quelqu'un de différent, quelqu'un de différente? J'aime cette histoire aussi où, vous savez, quand j'ai déjà parlé dessus, je vous ai déjà parlé de cette histoire avec Naaman et cette petite fille. On pourrait parler du petit garçon d'ailleurs sur la multiplication. Mais sur l'histoire de Naaman, il y a cette petite fille et qui pourtant, si on réfléchit bien à sa situation, c'est quand même tragique ce qui lui est arrivé. Et on ne sait pas, la Bible est très sobre, mais on ne s'imagine pas ce qu'elle a pu voir. Elle avait en tout cas des parents qui l'ont bien élevée. Alors je parle non seulement d'être bien élevée, comme on dit, mais c'est surtout qu'elle a reçu un enseignement. Mais elle n'a pas reçu là. Elle a reçu là. Et pour qu'un enfant reçoive ici, c'est que les parents, ils ont travaillé. Alors il y en a, c'est vrai, qui vont recevoir de suite et il y a des caractères comme ça qui les enfants de suite ils reçoivent, mais il y en a, c'est plus compliqué. On est tous différents. Mais pour que cette petite fille, après toutes les souffrances qu'elle a dû subir, elle a été séparée de chez elle, séparée de ses parents, séparée de ses frères et sœurs, si elle en avait, probablement. Qui sait si elle n'a pas vu les soldats faire du mal à ses proches? Vous savez, les armées, quand elles débarquent chez les gens comme ça et qu'elles font des enlèvements ou quoi que ce soit, ce n'était pas des tendres à cette époque-là. Est-ce qu'elle a vu ses parents mourir sous ses yeux? On n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'elle se retrouve déportée, exilée, chez l'ennemi, et elle se met en souci de la santé de la personne chez qui elle est. Mais c'est impensable. Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle avait reçu quelque chose. Elle a été elle-même touchée. Elle a eu compassion, malgré tout, de cet homme. Et finalement, elle a pu être à l'origine d'un miracle, d'une guérison, d'une conversion. Dieu sait utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et ici, on voit que Est-ce qu'on discerne toute l'importance de la transmission? Du fait que ses parents ont su lui apprendre, ont su lui enseigner. Et je m'adresse peut-être à ceux qui ont des enfants pour rappeler l'importance de l'enseignement aux enfants. Parce que Dieu nous appelle. Peut-être parce que je suis père et puis que j'ai 3 enfants et que j'y veille. Mais quand même. Pendant que nos enfants sont jeunes, pendant qu'ils sont petits, il faut les enseigner, parce que c'est un besoin. C'est comme ça qu'ils pourront s'ancrer, c'est comme ça qu'ils pourront recevoir des choses dans le cœur. Parce que quand on est enfant, on reçoit plus facilement au cœur que là. Avant que ça commence à fonctionner trop là, l'enfant lui reçoit là directement. Et c'est là la particularité de l'enfant. Mais il y a nos enfants dans la chair, c'est vrai, mais il y a nos enfants spirituels. Et dans cette église, on a une vocation, je crois, à enseigner nos enfants peut-être spirituels. C'est biblique ce que je dis. 1 Timothée chapitre 1, verset 2, ne cherchez pas, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Donc le jour où j'amène quelqu'un à Christ, où j'amène quelqu'un à la foi, c'est un peu mon enfant spirituel. Et est-ce que, après, je m'inquiète de comment il va grandir, de pouvoir l'enseigner en tant que père? C'est moi qui lui ai partagé l'évangile. C'est moi qui lui dis mon expérience, qui ai pu lui parler. Mais après, je deviens son confident, parce qu'il va grandir en se référant à moi. Est-ce que je partage? Et qu'est-ce que je partage d'ailleurs? Qu'est-ce que je partage? Jésus dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? On est dans le cadre de la distribution, la multiplication des pains. Ou s'il demande un poisson, vous avez vu, Jésus parle du pain, du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? C'est un enseignement sur l'inquiétude, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas là que je veux en venir. On comprend très très bien littéralement qu'aucun parent ne donne des pierres à leurs enfants au lieu du pain, on est d'accord. Mais quand Jésus parle, c'est toujours à double sens. Est-ce que j'ai déjà donné des pierres d'achoppement à mes enfants spirituels? Est-ce que j'ai été déjà l'origine d'un scandale? Je pèse mes mots. Est-ce que mon témoignage porte à discréditer la foi en qui j'ai cru à l'origine et en qui j'ai même pu engendrer? On peut tous avoir des enfants et mal les élever après. C'est comme ça. Et on peut avoir des enfants spirituels et de la même manière les scandaliser après. L'image du serpent, vous la trouvez pas forte? Qu'est-ce que je donne à mes enfants spirituels? Est-ce que je suis sans arrêt en train de me plaindre? Est-ce que ceux à qui j'ai parlé de Dieu voient toujours un homme qui est dans la culpabilité, une femme qui est toujours dans les inquiétudes et les soucis, alors que dans la parole, c'est quand même écrit « ne vous inquiétez de rien ». Ça veut dire que finalement, je suis converti, mais je doute sans cesse du Père Céleste, de celui qui pourvoit mes besoins. Et c'est ainsi que je sème des choses dans le cœur de ces enfants spirituels, mais des choses que je ne devrais pas semer en tant que père spirituel, en tant que personne responsable. Que Dieu me donne la joie de faire grandir. Est-ce que je suis une pierre d'achoppement? Est-ce que je donne des pierres, des serpents? Si Jésus le dit, c'est parce que ça arrive spirituellement parlant. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Regardez l'importance, on va le lire ensemble et je vais terminer le message là-dessus, sur ce psaume, le psaume 78. Et c'est un psaume qui, dans les 8 premiers versets, fait vraiment ressortir l'importance de la transmission, de la connaissance de Dieu. La multiplication des pains, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on vient de partager. Et alors que nous sommes tous appelés à être des disciples de Christ, nous sommes appelés à distribuer et à permettre à la multiplication d'avoir lieu. Parce que je vais pouvoir transmettre de bonnes choses. Parce que je vais être celui qui donne envie, qui donne soif. Parce que je brille, je reflète Christ, je suis tourné vers lui, je le reflète. Et du coup, ça fait de la lumière. Du coup, les gens sont attirés. J'aime donner cet exemple. Quand vous allumez une lumière dans la nuit, vous savez ce qui se passe ? Si vous laissez les fenêtres ouvertes, ben, y a les bestioles qui viennent autour de la lumière. Si vous brillez, eh bien, Dieu permettra qu'il y ait des personnes qui vont graviter autour de vous. Et parce qu'elles seront attirées par votre lumière. Encore faut-il être allumé. Encore faut-il être tourné vers Christ pour refléter vraiment sa lumière. Psaume 78. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit. Nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Redisant, vous voyez l'insistance, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, c'est un commandement de transmettre, pour que connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Je m'arrête là. Il y a trois choses qui ressortent de l'importance de la connaissance, de la transmission, de la distribution des pains, de ce que nous avons reçu. Les disciples avaient reçu le pain de Jésus et ils l'ont redonné derrière. Ils mettront leur assurance en Dieu. Deuxième chose, ils n'oublieront pas les actes de Dieu. C'est le verset 7. Hein, et ils observeront ses commandements. Trois choses qui ressortent par rapport à l'importance de transmettre, l'importance de redonner ce qu'on a reçu, l'importance d'être ce bon témoignage. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Est-ce que, peut-être, alors que j'ai parlé de l'importance d'avoir la compassion, tu réalises peut-être que ton cœur est dur et que tu aurais besoin de la grâce du Seigneur sur ton cœur pour que, oui, tu puisses toi aussi être utilisé par Dieu, mais comme on l'a vu, sans la compassion, je ne pourrais pas être utile dans les mains de Dieu parce que c'est toujours le point de départ de toutes les œuvres de Dieu, la compassion que je veux avoir pour l'un, pour l'autre. Et tu sais que Dieu t'appelle à faire des choses, tu sais que Dieu veut se servir de toi, Dieu veut se servir de tous ses disciples, sans exception. Et à la lumière de ce qui a été apporté, tu réalises que tu n'as pas la compassion. Alors si tu désires la compassion, si vraiment dans ton cœur tu le réalises, demande à Dieu qu'il te la donne. Parce que je le répète, tu ne pourras pas travailler pour t'améliorer. Est-ce que tu te rends compte que, comme les disciples, tu n'as pas compris quelle était ta vocation en tant que disciple ? Tu n'as pas compris que quand tu t'es converti, tu fais partie maintenant de... Tu as une mission à remplir, le Seigneur revient bientôt, et peut-être que dans ton entourage, il y a des personnes que Dieu cherche, et il y aurait des cœurs que Dieu pourrait trouver si seulement tu voulais briller et te tourner vers Christ pour que tu puisses le refléter. Peut-être que tu te rends compte que finalement tu n'as pas été ce vecteur de la bonne nouvelle, parce que tu te rends compte que dans ta vie, tu passes ton temps à râler. Tu passes ton temps à nourrir des inquiétudes. Tu es sans cesse dans le joug du péché et tu te débats sans cesse avec ton péché alors que finalement, tu ne devrais plus. Parce que dans la mort de Jésus à la croix, le péché n'a plus aucune emprise sur toi normalement. Pourtant, tu te dis que ce n'est pas ton cas. Le Seigneur désire faire de toi un disciple qui pourra aussi donner des pains à ceux qui sont autour de toi. Je vais prier, mais peut-être qu'on pourrait prendre un chant. Et pendant ce chant, si vous êtes travaillé par ce message et que vous désirez changer quelque chose dans votre vie, que le Seigneur intervienne dans votre vie et que vous puissiez repartir de l'avant, eh bien venez et on va s'associer à votre prière. Seigneur notre Dieu, à l'écoute de ce message, nous voulons te dire merci. Parce que ce grand miracle de la multiplication, tu l'as confié à des disciples. Seigneur Jésus, merci de l'honneur que tu nous fais. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous fais confiance, alors que plein de fois on aurait pu te dire que nous n'en étions pas dignes. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce. Seigneur, je te prie maintenant, alors que l'Esprit travaille peut-être les cœurs, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Je te prie pour mon frère, ma sœur, mon ami qui est en proie à ces questions, peut-être qu'il ne t'a pas encore reçu comme sauveur personnel. Seigneur, pose ta main, étends ta main, Seigneur, et fais-nous grâce ce soir encore, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.